C'est l'heure de ce qui nous arrive avec Mathieu Conquet en musique, Xavier Delaporte sur la toile et Sabine Audrerie avec la croix. Et on commence bien sûr comme chaque jour par vous, cher Xavier. Que nous arrive-t-il sur la toile ?
Eh bien, bonjour à tous, bonjour Marc, bonjour monsieur, bonjour à tous et toutes.
On dit bonjour monsieur l'invité.
Monsieur l'invité. Oui, je voudrais profiter de cette fin d'émission, de cette chronique, pour m'attarder quelques instants sur le point Godwin, et surtout sur les usages du point Godwin, et puis je vais essayer de vous convaincre qu'il faudrait arrêter d'avoir recours à cette expression de point Godwin.
Mais moi, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire.
Eh bien, Marc Vanchet, comme vous venez de découvrir le fonctionnement de YouTube, je vais vous parler du point Godwin, vous expliquer ce que c'est. Le point Godwin est dérivé d'une loi empirique énoncée par un certain Mike Godwin, qui est un avocat américain et figure importante des réseaux depuis longtemps. En 1990, à partir des conversations auxquelles il assiste sur Usenet, on est là avant la naissance du web, donc Usenet, c'est un des réseaux qui compose l'Internet. Donc Godwin énonce la loi suivante. Plus une conversation en ligne dure, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Hitler s'approche de 1. En fait, Mike Godwin applique ici aux conversations en ligne un phénomène qui a été identifié dès le début des années 50 par le philosophe Léo Strauss sous le nom de « reductio ad Hitlerum », la réduction à Hitler, et qui consiste donc à disqualifier l'argumentation de l'adversaire en l'associant à Hitler, aux nazis ou à toute autre idéologie au nid de l'histoire. Aujourd'hui, en français, donc, on parle plus volontiers de « point Godwin » que de « loi Godwin » pour désigner ce moment de la conversation où se manifeste la « reductio ad Hitlerum ». On dit donc d'une conversation en ligne, et on dit parfois aussi d'une conversation hors ligne depuis plus récemment, qu'elle a atteint le point Godwin quand l'un des interlocuteurs en réfère au nazisme, à Hitler, à la Shoah, etc., pour disqualifier l'argumentation de son adversaire. Alors qu'est-ce qui me gêne aujourd'hui dans le recours au point Godwin ? D'abord, l'expression a un usage ambigu. Parce que si au départ l'expression était très utile pour dénoncer une tendance dans les réseaux à l'excès rhétorique, à la comparaison un peu ridicule même, elle est devenue un moyen de disqualifier tout argument qui manipule des concepts de près ou de loin liés à cette question. Exemple, vous dites qu'il est permis de voir un brin d'antisémitisme quand Dieudonné dit qu'il veut enfoncer sa petite quenelle dans le fion du sionisme. Ah, point Godwin, va-t-on vous répondre ? Vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le recours au point Godwin, de révélateur de processus disqualifiant à l'œuvre dans une conversation, est devenu lui-même un moyen de disqualifier une argumentation ou une conversation, constat parfois juste, mais parfois aussi un moyen de mettre fin à une discussion gênante. D'ailleurs, a été inventé le point Wingod pour dénoncer cet usage abusif du point Godwin.
Je suis largué.
Vraiment, si vous tweetiez pas en même temps. Ça n'est pas un détail de noter cela, parce qu'avec la généralisation de son usage, le point Godwin est devenu une arme dans la main de ceux qui ont intérêt à faire passer le soupçon d'antisémitisme, de racisme ou de fascisme pour un excès rhétorique, pour une sorte de délire oratoire un peu ridicule. Et donc, il faut se méfier de ce retournement. Ensuite, en donnant à ce phénomène, c'est-à-dire donc à la référence à Hitler, au nazisme, donc qui apparaît souvent dans les conversations en ligne, en donnant à ce phénomène l'aspect d'une loi de la nature, Mike Godwin a donné l'impression que ça faisait partie donc de la nature de la conversation sur Internet que d'aboutir à ce type d'excès et donc de mourir d'elle-même, chacun restant sur ses positions. Vous vous suivez maintenant, Marc, hein ? En continuant à utiliser cette expression de point Godwin, en cherchant à atteindre le point Godwin comme le font certains sur Internet pour s'amuser, en voyant des points Godwin partout comme le font d'autres, eh bien on continue d'accréditer l'idée que toute conversation numérique aboutit à sa propre nullité. Au final, ça revient à annuler même l'intérêt, l'idée qu'il y ait une conversation numérique possible. Or, ce qui est intéressant, c'est que Godwin lui-même, il a expliqué très vite que sa loi n'était pas une vraie loi. En 1994, dans un article au magazine Wired, qu'il écrit lui-même, il explique que l'édiction de sa loi était une expérience pour voir s'il était possible de créer une formule virale qui permettait de lutter contre le recours massif à l'accusation de nazisme dans les conversations en ligne. Et on peut dire que, bon, aujourd'hui, il a réussi. La loi s'est imposée. L'expérience a marché, peut-être qu'elle a trop bien marché, et il est temps peut-être de se demander si le recours au point Godwin n'est pas devenu un obstacle à la conversation en ligne, à l'idée même qu'il puisse avoir une conversation en ligne, et qu'en tant que tel, eh ben, on pourrait le mettre de côté et puis trouver autre chose.
Et ça non mais bravo, parce qu'on sait assez peu que Godwin lui-même donc a mis effectivement en cause l'efficacité ou entre guillemets la validité de sa thèse, effectivement.
Oui,
c'est pas une loi,
c'est une expérience menée.
Qu'est-ce qu'il en pense, le monsieur l'invité ?
Qui ne tweetait pas, lui, pendant
non,
la
conversation. Je ne sais même pas comment on fait. Non, mais si vous voulez, toutes ces expressions, c'est comme le politiquement correct. Tout ça est aussi politiquement chargé. C'est-à-dire que ce ne sont pas, on parle de loi Godwin ou de politiquement correct, vous savez citer Léo Strauss, ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que ça a une fonction. effectivement, et dans le cas d'espèce, c'est de minimiser le nazisme, malgré tout. Alors moi, il y a une manière très simple de ne pas minimiser le nazisme, c'est de relire ce qu'ils ont écrit et de regarder ce qu'ils ont fait. Donc moi, je comprends très bien l'intérêt et aussi l'intérêt de la contre-proposition, contre-rhétorique. L'histoire est, d'une certaine manière, un antidote à ça.